Allô?
Je voudrais garder un témoignage vocal de notre événement. Donc, on invite les participants, on leur demande de se présenter, on leur demande de résumer, de nous faire un souhait, ou de nous partager leur impression de notre événement, pour qu'on puisse ensuite tirer quelque chose de ces témoignages. Donc, je vous prie de vous asseoir.
Chaos. Réflexion et impression. Présenté par le Raïc.
Ça roule? Que je ne connaissais pas. Donc, mon réseau s'est complètement ouvert et puis je suis certain que de nouvelles collaborations entre artistes et organisations vont avoir lieu suite à ce colloque. J'ai beaucoup aimé entendre mes pairs parler justement de l'interdisciplinarité, comment que ça se transmet dans la pratique. Puis, étant donné que chacun vient un peu aussi d'une autre discipline, parce que on parle d'interdisciplinarité, mais on a des gens qui sont peut-être plus près de la performance, d'autres artistes qui sont plus près de la musique, d'autres artistes plus proches de la vidéo ou peut-être du multimédia. Donc, c'est intéressant de voir comment que ces artistes-là discutent justement de la pratique de l'interdisciplinarité à travers justement un peu leur bagage qu'ils ont disciplinaire. Une rencontre extraordinaire parce que, bon, quand on... travail à la vie associative, on a souvent l'impression qu'on prêche dans le désert parce que ça devient un peu abstrait. On fait des réunions très formelles de conseils d'administration, on essaie de se donner un plan de travail, on se donne des priorités et on n'a jamais la conviction là, ou la preuve là, qu'on est écouté, que les gens ont de l'intérêt pour ce qu'on est en train de réfléchir. Puis le défi qu'on s'était donné ensemble, c'était de faire en sorte de donner du corps, je vais dire ça comme ça, donner du corps à cette communauté-là, de telle sorte qu'on puisse entendre des voix qui nous donneraient des pistes pour les actions à venir.
Je trouve qu'on est dans une nouvelle étape qui n'est plus celle de se définir, bien que la définition est toujours en mobilité, en fluctuation, et ça en fait sa richesse. Mais on est dans une mouvance d'exprimer notre force, une volonté de solidarité, de réseautage, et de ce point de vue-là, c'est extrêmement stimulant qu'on n'est plus à chercher, donc à se regarder le nombril, mais on est dans un mode d'ouverture, de dialogue, d'afficher qui on est haut et fort.
vraiment tissé le pont sur cette idée qu'on avait des relations, un état d'esprit vraiment affinitaire, qu'on faisait partie de la même communauté, un peu immatérielle de penseurs, d'intellectuels, d'artistes qui sont préoccupés par la mouvance qu'on retrouve dans le domaine des arts, notamment parce qu'il y a une mouvance, comme tu le dis, dans la société.
Et qui définirait l'art inter de manière vraiment essentielle, ce serait le fait que justement le cantonnement dans les disciplines est une forme d'académisme contre lequel doit se battre l'art inter, c'est-à-dire que tout ce qui relève de la recherche, de l'expérimentation, l'art inter, ce ne serait pas en ce sens-là simplement la rencontre de diverses disciplines qui produit troisième forme, disons, de deux disciplines qui produiraient une troisième forme, c'est plutôt la mise de l'avant de la recherche, de l'expérimentation, l'incertitude comme élément de création, au cœur même de la création, l'incertitude dans ce qui a trait à la discipline qui finit par faire exploser la notion même de discipline, ça me paraît fondamental, puis nous sort de tous nos prérequis, ça pose beaucoup de questions. Toutes les discussions qu'on a eues depuis deux jours posent beaucoup de questions sur le rôle que peuvent jouer les diffuseurs en particulier.
Des artistes qui, je pense, qui demandent à être entendus sur leur liberté totale et absolue de choix des moyens et des processus de création. Et c'est comme ça que l'art va se faire, la création artistique peut se faire. C'est dans le fait de revendiquer cette liberté-là totale. Et donc d'être évalué envers un processus et à la fois d'être jugé, bien sûr.
Juste là, la complexité rassure et assure cette pensée plurielle qui fait c'est quoi l'humain, hein? Il est complexe, il est diversifié, il est riche, au lieu de s'appauvrir. Donc moi, je trouve le paradoxe de confirmer cette complexité et enlever les gens de leur paresse. Parce que quand on a un spectateur qui vient puis qui ne comprend pas ce qu'on fait, c'est pas parce que c'est difficile ou il n'a pas les clés. Parce qu'il est dans une paresse intellectuelle qui consomme des œuvres monoculture, qu'il n'est plus capable de voir même pas c'est quoi la rue, c'est quoi le monde. Je pense... C'est ça l'enjeu, je pense. C'est au-delà des nominations puis des enveloppes. C'est confirmer et faire un pacte d'engagement avec soi-même puis avec les autres artistes. Parce qu'on sort de notre solitude. Oui, on s'assure qu'il y a des gens dans cette mouvance qui fit nulle part, qui appartient à toute l'humanité, mais leurs moyens d'expression ne doivent pas être soumises ou conditionnées par des petits sentiers. Ils rapetissent large, mais avec un engagement ferme.
La première des choses, je dirais, c'est la création. Donc, Pierre et moi combinés, on a des formations et des historiques en art visuel, en cinéma, en danse, en littérature, qui nous ont aussi amenés à toucher à la vidéo, au montage sonore. Peut-être que c'est une des manières de se dire, de se définir comme interdisciplinaire. Pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, on a joué dehors. On a joué à construire des labyrinthes de feuilles mortes sur la montagne, puis à regarder ce que les gens qui passaient allaient faire avec, sauter dedans, le contourner. Puis après ça, on regardait les nouvelles, déjà comme un vieux couple, puis les banques canadiennes affichaient 1 milliard de profits quand la maison du père, elle, avait besoin de 107 paires de bois par jour. Alors, il y a eu la volonté de réagir à cette nouvelle aberrante-là, puis encore d'actualité. Ça a été plus fort que nous, et ça a été notre première intervention. La banque à bord est aimée, puis l'AXA avec. Toujours plein de fougue après 17 ans. On se fait souvent parler d'art engagé. Bien, le premier engagement en art, c'est celui de l'artiste envers sa parole, sa création, son identité. Il y a plusieurs artistes qui détestent cette expression d'art engagé, puis Ève Lamoureux l'a abondamment soulevé dans son livre « Art politique ». Je dirais que nous, ce qui nous affirme comme étant engagés socialement ou faisant un art politique, c'est le fait peut-être que notre création est motivée par notre observation du monde, notre indignation, voire notre colère face à des enjeux globaux, importants. Puis surtout notre relation avec ces enjeux-là. Donc, qui suis-je individuellement devant cette problématique collective? Qu'est-ce que je peux y faire? Comment je me positionne devant ces choix de société? Comment je peux aller le dire à mes concitoyens, sonner l'alarme, provoquer leur indignation puis leur action? Quel objet, situation, mise en scène va les faire réagir, agir? On ne veut pas être neutre. On se positionne pour susciter du positionnement. Ça a donc très vite été un incontournable pour nous d'intégrer la notion de responsabilité citoyenne dans ce que nous allions créer. On a choisi au départ de travailler dehors, en dehors des lieux dédiés à l'art, pour rejoindre justement ce public citoyen, pour s'adresser à des enjeux publics dans les espaces publics. À chaque sujet, sa symbolique, son territoire, son positionnement, sa rencontre avec un monde qu'on apprend à connaître, un angle qui raffine notre propos, c'est toujours nouveau, toujours surprenant. On aime construire des expériences, tisser des fils rouges entre ce qui mène le monde. Les discussions qu'on a eues à la table aujourd'hui menaient aussi beaucoup vers ça. C'est là où je vois aussi qu'on se rencontre. On a voulu générer de l'impact par les images fortes, voire provocantes dans l'espace public, puis par la médiatisation des projets, leur traitement dans la nouvelle, pour dépasser le cercle de l'art, justement. Mais aussi par tous les mondes et toutes les sortes de mondes différents qu'on a réussi à inclure dans nos projets. Des milliers de bénévoles, des centaines d'entreprises et d'artistes qui se sont présentés pour vivre leur art comme un engagement social qui nous sort de la marchandisation de la culture. Entre autres dans notre festival État d'urgence, devenu fin novembre suite aux coupures de patrimoine canadien, mais aussi tous les autres projets que tu nommais un peu tout à l'heure. Puis leur rayonnement dans le Canada, tout ça pour nous fait une méchante belle architecture sociale, puis c'est ça aussi pour nous l'interdisciplinarité, si je peux dire. C'est de créer la rencontre entre des mondes qui vivent ensemble, inévitablement sur la boule qu'on appelle Terre, mais souvent qui s'ignorent, les faire s'entremêler, échanger, se bouleverser. On a toujours travaillé de l'idéation à la recherche de financement, à la production, à l'autodiffusion. Donc, on a très vite intégré toutes les étapes d'un projet jusqu'à son aboutissement au public, en étant maître d'œuvre de tout. Ça nous a donné une grande liberté d'action, dont celle de ne pas avoir à attendre après un diffuseur, mais à composer avec les pompiers, la police, la ville. Ça nous a fait toucher à tout. Et ça nous donne beaucoup de travail. On a avec le temps donc développé ce qu'il fallait savoir pour faire de l'art dans la ville. Quand on sort de notre ville, par contre, on ne rencontre pas toujours les diffuseurs capables de nous aider. On sort trop de la case. Il y a une éducation à faire en diffusion. Espace public et liberté d'expression. Évidemment, on ne peut pas mettre de côté le cadre politique dans lequel on crée. Là, je ne parle pas nécessairement des programmes, mais on s'inscrit quand même dans une société où une liberté d'expression existe. Mais elle n'est pas à prendre pour acquise pour autant. Puis, dans nos sociétés de consommation, c'est son industrialisation qui devient l'enjeu. Prenons le cas de l'espace public. Justement, depuis que les villes ont découvert le potentiel économique des espaces publics pour le tourisme, pour vendre la ville, ceux-ci sont maintenant aussi des lieux d'expression de plus en plus convoités et dont l'accès est de plus en plus balisé en termes d'initiatives culturelles. Ça risque de mettre la liberté artistique en danger pour ceux qui y évoluent et à l'AXA, on tente depuis plusieurs années d'y défendre notre place. Plus d'art, c'est bien, mais quel genre d'art, quelle liberté pour les artistes, où va l'argent, c'est un enjeu important aussi. Donc, les promoteurs de grands événements divertissants ont un apport positif indéniable dans la société. On a mis de l'argent pour refaire des places publiques, plus conviviaux, etc. Mais ils ont aussi les moyens financiers de tasser les artistes qui ont moins de moyens, qui parlent d'enjeux plus difficiles à aborder, qui ne donnent pas une belle image de la ville et qui en ont de moins en moins accès, les artistes, aux médias de masse et très peu de moyens en promotion. Et ça fait l'affaire de beaucoup de monde. On se plaise. Il y a là un enjeu politique de taille. Patrimoine. Cette problématique est très évidente chez Patrimoine canadien. Des coupures ciblées que le bras conservateur a effectuées, pareil pour la recherche scientifique ou les ONG, soit de moins en moins de fonds publics dans ce qui apporte un sens critique au monde. Dans ce sens-là aussi, l'art comme la science est éminemment politique. Autrement dit, l'art fait peur aux politiques s'il ne lui est pas asservi. Restons indisciplinés. Conseil des arts et démocratie. J'en disais dernièrement à Nicolas Bourriaud pour... j'ai retrouvé une citation que je trouve dans le vif du sujet. Quand on veut tuer la démocratie, on commence par museler l'expérimentation. Ça devrait être une sonnette d'alarme pour les conseils des arts. S'il fallait qu'ils s'inscrivent dans cette même logique que Patrimoine canadien, l'art de recherche plus pointu dans son aspect formel ou dans son aspect engagé ou politique sera étouffé. Je crois que les conseils des arts, par le biais des jurys d'artistes aussi, ont à prendre parti et qu'ils ont, et qu'on a, une responsabilité quant à la survie de la démocratie par la protection des pratiques artistiques d'expression non facilement finançables par le privé, des pratiques libres. Même si on n'a pas tous aussi peut-être les mêmes modes de création, on est cependant certainement liés par ce même principe que l'art nous fait flâner. Qui a cette faculté de nous ouvrir les sens, de nous transporter dans un autre monde, de nous sortir de nous-mêmes, qui nous connecte, qui est un miroir grossissant, qui révèle et qui exprime notre colère, notre folie, mais qui la contient aussi. Qui l'élève la révolte au-dessus de la barbarie. C'est un espace de liberté puis de jeu. Il nous informe autrement sur notre condition humaine et nos choix collectifs, puis nous donne des pistes puis du courage pour oser retourner se confronter au réel et le transformer. Il insuffle des valeurs comme la curiosité, le sens critique, l'imaginaire, la confiance, la remise en question des schémas établis. Il éduque. L'art doit se jouer des conventions. Il déconstruit pour reconstruire, pour redéfinir les rapports humains. Il civilise. Il doit nous faire voyager, voire plus loin, par l'univers personnel des artistes vers nos imaginaires collectifs. Toutes les disciplines pourraient dire ça. Bien sûr. En indiscipline, en impact, je ne sais plus quoi dire, simplement. Ce n'est qu'une base de création, une palette de couleurs qu'on doit vite mélanger. On veut juste parler d'art, on veut juste faire partie d'un grand tout. On est davantage un manifeste qu'une discipline. Je pense en gros qu'on attaque la création autrement, parce qu'on se donne le droit de charcuter, de malaxer, d'en prendre des petits bouts, d'être irrespectueux. On peut se dire, voilà, ça je peux mieux l'exprimer par la parole, ici c'est le geste, là c'est l'objet. Non, c'est une vidéo qu'on doit faire. appui, si on sortait l'art de son public habituel, si on jouait comme si on n'en faisait pas de l'art. Oui, on se donne même le droit de faire ça, sortir l'art de l'art. Au fil du temps, on est davantage une philosophie de l'expérimentation, un état, une posture, devant tout ce qui s'offre à nous pour dire, pour être en mode création et amener nos paroles vers les gens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'expérimentation dans tous les milieux, au contraire. Mais nous sommes certainement moins régis par une tradition millénaire disciplinaire, justement. Je me qualifiais tout à l'heure d'électron libre, une communauté éclatée. Mais je crois que cette communauté a besoin de rassembler ses solitudes, de se créer une matière dans laquelle baigner, un réseau, une solidarité, pour avoir des leviers politiques, des avancements de financement, pour consolider des pratiques, des visions éclairantes pour le monde de l'art en général. Le RAEC, ce n'est pas un organisme culturel, c'est un organisme de lobbying devant le Conseil des arts. Un manifeste des indisciplinés. N'oublions pas que le refus global réunissait toutes les formes d'art, que les femmes s'y sont imposées et que c'était un mouvement laïque. Un manifeste pour une date de péremption, avec une date de péremption, pour ne pas s'enquiloser. C'est une proposition. Après ce manifeste parapluie, on pourrait se regrouper selon nos modes de production parce qu'on ne peut pas nier que nous sommes très disparates à ce point de vue et qu'on a des besoins très différents. Peut-être sommes-nous des butineurs qui n'ont pas de niche fixe autre que nous-mêmes. Mais on n'a pas non plus de temps à perdre à trouver maison et à faire du couchsurfing de programmes éternellement. Donc on a des modes de production tentaculaires, des influences multidisciplinaires en art et en dehors des arts. Il nous faut nous concentrer nos énergies et ne pas accepter d'être éparpillés dans tous les programmes, mais soutenus équitablement par rapport aux autres programmes pour le fait de bâtir des écritures singulières importante pour l'avancement de l'art en général, qu'on n'a pas à être marginalisé et qu'on ait rendu déjà trop de monde pour ça.
Par n'importe quelle discipline ou pensée ou idée ou moyen ou... Puis créer l'événement qui fait qu'on est en dialogue ou qu'on appartient à notre société dans le temps présent.
J'avais 16 ans, 17 ans. J'étais en train de finir un cours classique au cégep de Limoilou, mais qui s'appelait à l'époque l'Externat classique Saint-Jean-Eul. Et j'étais un des meneurs des manifestations des enfants des collèges classiques contre les écoles secondaires qui allaient venir nous envahir et les instituts technologiques qui allaient venir nous envahir. Alors, sur les rues de Québec, nous nous battions allègrement contre la racaille ou les enfants pauvres qui allaient, dans quelques années, envahir les collèges classiques. Ça a été une expérience déterminante. À la fois pour apprendre à se bagarrer, à la fois pour apprendre qu'on se trompe. ça a vraiment été assez merveilleux. Donc, effectivement, des cégeps sont apparus. Tant mieux. Et j'ai fini mon cours classique et j'ai ensuite fini mon cours de philosophie. C'est vrai que j'ai été formé en philosophie. Je suis devenu enseignant. Et au fil de l'enseignement, très rapidement, quelques années après avoir commencé à enseigner, le deuxième grand front commun syndical du Québec, de l'histoire du Québec, s'est mis sur pied. Et j'étais un des négociateurs de la FNEC-CSN, Fédération nationale des enseignants du Québec. J'avais 23, 24 ans. Et ça a été une expérience fantastique. Hein, apprendre à négocier des conditions de travail dans un front commun avec Francine Lalonde comme présidente du syndicat à l'époque. Ça a été fantastique. Mais apprendre sur tout ce qui va suivre, et puis je résume très vite, j'étais responsable des dossiers de la page des enseignants, de la commission pédagogique, ceux qui, peut-être que pour certaines personnes maintenant, ça ne veut presque plus rien dire, mais dans les cégeps, il y avait une structure qui s'appelait commission pédagogique qui réunissait des représentants de tous les corps d'employés, enseignants, cadres, professionnels et employés de soutien et étudiants. Et c'est cette structure-là qui déterminait les approches pédagogiques utilisées dans chacun des cégeps. Il y avait une très large autonomie de cette commission pédagogique qui n'existe plus sous cette forme-là, en tout cas à ma connaissance. Donc, responsable de la tâche des enseignants, responsable de la commission pédagogique et responsable du dossier de sécurité d'emploi. Et on avait fait... essayez de vous imaginer ce que ça veut dire analyser la tâche des enseignants dans un réseau qui s'appelle les Cégeps du Québec. C'était impossible avec les moyens de la CSN. Alors, on avait trouvé moyen d'entrer dans les ordinateurs du ministère de l'Éducation par les ordinateurs du Cégep de Limoilou et toutes nos modélisations se sont effectuées sur les ordinateurs du ministère de l'Éducation avec les données du ministère. Vous pouvez imaginer comment on était vraiment à la fine pointe pour développer nos argumentaires sur la tâche des enseignants. J'insiste un peu là-dessus, c'est parce que si on avait signé cette convention-là avec les ententes sur la tâche, l'enseignement dans les cégeps du Québec aurait été très différent. La masse d'étudiants, les approches pédagogiques auraient vraiment beaucoup changé. Alors, quand on est arrivé à la conclusion, parce que les négociations, ça se conclut toujours de façon bête. Hein? Alors, quand le négociateur en chef du côté du gouvernement a dit « J'ai tant de millions à mettre sur la convention de la Fédération nationale des enseignants du Québec », et ces millions-là, vous choisissez où vous les mettez. Vous pouvez les mettre sur la tâche, vous pouvez les mettre sur la sécurité d'emploi, vous pouvez les mettre sur la commission pédagogique, vous pouvez combiner deux sur trois si vous voulez. Alors, on a fait une tournée de consultation et de votation dans les assemblées générales, et puis ils ont choisi la sécurité d'emploi. J'ai démissionné. Parce que la sécurité d'emploi, puis l'art d'enseigner, c'est incompatible. Ça ne peut pas s'imaginer. Sécurité d'emploi, c'est la meilleure façon de s'endormir pour longtemps. Donc, j'ai démissionné. Mais pendant que cela se passait, les assemblées générales ont quand même consenti à faire une chose qui est encore aujourd'hui très importante, vous allez le voir tout de suite. Ils ont consenti à ce que les salaires, les enveloppes salariales des cégeps dont ils s'étaient employés, soient versées à une caisse qui s'appelle la Caisse d'économie des travailleurs de Québec. Ça a l'air de rien, ça a l'air de rien, ça. Mais les enveloppes salariales des cégeps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils ont aussi consenti à ce que 2% des salaires soient versés dans un fonds de réserve pour les fins des membres de la Caisse d'économie des travailleurs de Québec. Cette caisse-là, aujourd'hui, vous la connaissez comme Caisse de la culture. C'est la caisse qui a financé la réalisation de Méduse. Je veux vous montrer qu'il y a comme des... vous faire sentir qu'il y a comme des entrecroisements qui ne sont pas toujours de l'ordre des arts, mais qui peuvent s'y agripper. Et puis que dans nos vies, on a comme ça des espèces de crochets après notre chair qui tout d'un coup se fixe à quelque chose. Et avec ça, on peut créer autre chose. On peut amener, on peut produire ou provoquer toutes sortes de phénomènes qui peuvent ensuite, avec le temps, se révéler incroyables. Parce qu'on n'avait pas nécessairement aperçu dès le départ. Donc, j'ai négocié cette affaire-là. Puis, comme j'avais raté la négociation, je suis quand même revenu enseigner. Et au Cégep de Limoilou, j'ai mis sur pied un machin qui s'appelle le département interdisciplinaire. C'est la première fois que le mot apparaissait dans ma vie. Il y avait un autre département interdisciplinaire qui était au Cégep de Maisonneuve, je pense. Et le promoteur de ce département-là a créé l'encyclopédie électronique numérique L'Agora, que plusieurs connaissent, j'imagine, qui est une excellente encyclopédie d'ailleurs. Donc, je crée un département interdisciplinaire. Qui fait partie de ce département interdisciplinaire? Louis Wallet. Louis Wallet est beaucoup moins connu que moi. Il est toujours resté brutalement dans mon ombre. C'est pas un personnage qui aimait être personnage public, mais Louis Wallet va travailler pendant, mon Dieu, 25 ans avec moi. Et il va être un des fondateurs d'Obscur. C'est un mordu féroce de musique expérimentale. Et il va être l'origine de Bruit TV. D'un front, Bruit TV, c'est d'abord Louis Wellington. Donc, dans ce département interdisciplinaire, on enseigne en mêlant les cours. Alors, un prof de philo donne son cours en même temps qu'un prof de géo, puis un prof de biologie, en se donnant comme une matière sur laquelle ils peuvent travailler en commun. Puis ils construisent une partie de cours, ça ne durera peut-être pas 45 heures, ça ne fera peut-être pas 30 minutes, ça n'a aucune espèce d'importance. Et dans ce département-là, on crée en utilisant les outils audiovisuels de l'époque. Alors, il y a un studio de son. Évidemment, avec des paramètres cyniques, c'est des outils qui restent pas là. Et un studio avec des caméras dites légères, qui étaient quand même pas cassées. Et beaucoup des cours, à la demande des étudiants qui le veulent, se donnent par ces outils-là. Et les étudiants peuvent produire leurs travaux par ces outils-là. C'est comme les premier balbutiement de quelque chose qui deviendra obscur, dans le fond. Ce département-là, il est situé au Cégep de Limoilou. Son succès est tellement considérable que la moitié des inscriptions au Cégep de Limoilou est libre et volontaire. Hein? Les étudiants ne sont pas obligés de s'inscrire dans le cours de tel enseignant, etc. Ils peuvent choisir. Le département connaît un succès tellement fou que la moitié des étudiants du Cégep de Limoilou s'inscrivent au département interdisciplinaire. Ça dure 2 ans, c'est un succès fou, mais c'est évidemment anti-syndical. Vous allez le deviner assez facilement. Parce que ça brise les départements unidisciplinaires, parce que ça brise la structure de tâches. Je travaille 3 heures, je m'en vais chez vous. En tout cas, vous pouvez imaginer tout le cafarnaum. Alors, le ministère de l'Éducation est alerté par le syndicat. Il y a une commission d'enquête qui se met sur pied. La commission d'enquête fait sa job, une grosse commission d'enquête. Arthur Tremblay, qui est un des plus hauts fonctionnaires du gouvernement du Québec. Deux théoriciens de la pédagogie de l'Université Laval. Alors, ils font une grosse job. Puis ils remettent un rapport dont la conclusion est que les étudiants soient au département interdisciplinaire ou qu'ils soient dans les programmes réguliers, ça n'a pas d'effet sur leur réussite ou leur échec. C'est leur conclusion. Le ministère, le ministre Laurent, à l'époque, conclut à la fermeture du département interdisciplinaire. Alors je démissionne encore. Ça va être... Et puis, je vais faire un tour en Europe, une année, comme ça. Je reviens, et en revenant, il faut que je gagne ma vie. Donc, je cherche une job. J'en trouve deux jobs à temps partiel. Une à l'Université Laval à Québec en enseignement en cinéma. L'autre en philosophie au cégep de Matane. Qui est-ce que je rencontre à l'occasion de mon travail à l'Université Laval à Québec en cinéma? Robert Fagy et Régent Perrin. De mémoire, vous étiez les deux chargés de cours. Alors, qu'est-ce que... Assistant. Oui, moi, j'étais chargé. Alors, vous avez vu tantôt le parcours de Robert Fagy. Vous ne l'avez pas vu au complet, mais vous en avez vu une partie. Régent Perrin, ben, vous le connaissez. C'est le grand patron des programmes. Maintenant, le grand patron des programmes de diffusion, je pense, au Conseil des arts et des lettres du Québec, on fera quelque chose comme ça. Mais à cette époque-là, ces gens-là sont des passionnés d'art. Hein. Ils ne sont pas encore devenus des fonctionnaires d'aucune sorte. Et c'est autour de projets de production qu'on se connaît, et c'est autour de projets de production et de création qu'on va continuer à travailler ensemble. Un petit peu plus tard, ces deux-là vont être parmi, pas les fondateurs d'Obscur, je pense pas, mais parmi les tout premiers, tu vois, à travailler avec Obscur, à faire en sorte qu'Obscur existe. Pendant ce temps-là, rappelez-vous, je suis aussi à Matane pour enseigner la philosophie, et plusieurs parmi vous l'ignorent peut-être, mais la Galerie d'art de Matane, à l'époque dont je parle, était probablement l'un des centres d'artistes les plus fabuleux que tout le Québec ait connu. Ils sont une belle gang de fous. Et il y a là des personnages que vous n'avez pas connus, évidemment, mais qui vont rester parmi les personnages importants de mon existence, avec lesquels je vais travailler longtemps. La Galerie d'art de Matane va rapidement devenir un membre d'un réseau que Obscur va initier. Et là, je souligne un gros trait, parce que on est déjà loin dans l'histoire, c'est pas récent la chose, mais Obscur avait déjà créé un réseau de réseaux. Et le réseau qu'il a créé, il l'a créé surtout autour de la musique et de la performance, avec une organisation qui s'appelait Traquenard à l'époque, qui était dirigée par Patrick Darby à Montréal, qui était consacré à la musique expérimentale, la musique de recherche, des choses comme ça. Le Festival international de musique de Victoriaville, qui commençait et qui avait besoin d'aligner Obscur à Québec, évidemment, et la Galerie d'art de Matane à Matane. Alors, ces points-là, ces points de chute, ont permis de faire circuler au Québec plusieurs des artistes les plus
bizarroïdes de la scène musicale et de la performance.
Pendant, je pense, quelque chose comme 4 ou 5 ans, ça a quand même tenu le coup un bon moment. Obscur se crée, encore là parce qu'il fallait que je gagne mon pain, et Obscur, pognait pas. Obscur à l'époque est une coopérative de travailleurs. Dans le fond, Obscur ça ne s'est pas imaginé comme un centre d'artistes. Il a été défini comme centre d'artistes parce que les centres d'artistes existaient puis que c'était une niche inévitable. Mais il a d'abord été défini comme coopérative de travailleurs. Et il affirme dans sa fondation même coopérative de travailleurs en art multidisciplinaire. C'est peut-être pas la première fois. Je me demande si le lieu inter n'a pas fait le schiste avant nous, mais c'est une des premières fois où cette appellation-là apparaît sur le terrain au Québec en art. Et ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes au ministère de la Culture et des Communications. Ça pose des problèmes à tout le monde. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que cette bestiole, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un organisme multidisciplinaire. D'autant plus que, et ça aussi, je vais souligner un petit peu à grand trait, d'autant plus qu'Obscur se définit comme un centre de diffusion multidisciplinaire et un centre de production multidisciplinaire. Alors, on n'exclut ni un ni l'autre. Et pour nous, la diffusion multidisciplinaire, c'est pas nécessairement la diffusion d'œuvres qui sont toujours des œuvres multidisciplinaires. C'est la diffusion d'œuvres qui peuvent très bien être uniquement de la musique, uniquement du théâtre, de recherche, uniquement de la performance,
uniquement le présent, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais la diffusion de toutes ces pratiques-là, qui sont toutes des pratiques de recherche, pour nous, favorise le développement de la création multidisciplinaire proprement dite. Et ça a fonctionné. Je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que ça a très, très bien fonctionné. Ça a beaucoup fonctionné aussi à travers, pour le public, qui ne se retrouvait pas dans une situation, parce que même les centres d'artistes, parfois, donnaient l'impression, encore plus aujourd'hui d'ailleurs, donnaient l'impression à cette époque-là d'être des galeries privées déguisées, puis c'était plate d'aller là, alors que compte tenu de la diversité de ce qu'on présentait, ben, les gens étaient comme attirés, tentés, puis tous les goûts étaient là, puis comme... Alors ça a donné des résultats qui ont été considérables. Alors, dans cette phase d'apparition d'Obscur, j'ai mentionné tantôt le Wallet, il y a un autre personnage qu'on a beaucoup moins connu qui s'appelle André Roy. Ces deux-là, Wallet et André Roy, sont des adeptes des situationnistes. Je pense qu'il y a du monde qui connaît un peu le mouvement, puis je ne résumerai pas ça à grand trait parce que ça serait vraiment malhonnête, parce que c'est une autre histoire. Mais c'est un mouvement anarchico-révolutionnaire français d'une certaine époque, qui était d'ailleurs dans le dépliant, on dit créer une situation pour. J'avais utilisé créer des situations pour changer la situation, ce qui n'est pas loin de. Ce que faisaient les situationnistes à l'échelle politique, pas seulement à l'échelle artistique. Mais les situationnistes utilisaient beaucoup des codes graphiques. Là aussi, je souligne à grands traits. Pour communiquer avec le monde, pour communiquer avec la population. Alors, ils utilisaient beaucoup des techniques de collage qui étaient populaires à l'époque. Ils utilisaient les techniques d'Azébar, qui se répandaient aussi à l'époque. Et ils passaient leur message beaucoup par ces moyens graphiques-là. J'insiste là-dessus parce que quand on a créé le département interdisciplinaire et pendant toutes les premières années d'Obscur, le signal graphique, le travail graphique a toujours été une obsession. On a toujours pensé que c'était peut-être l'outil le plus facile, le plus simple qui était à notre portée pour réussir à se faire entendre. Pas seulement par nos membres, et puis vous savez, c'est une espèce de liste un petit peu trop courte, mais par les gens en général, par le public qui passe sur la rue, par quelqu'un qui prend l'autobus. Pendant plusieurs années, on va bien réussir à le faire, et c'était fondamental pour nous. Pendant que je suis en train de travailler à Obscur, quelqu'un demande absolument. Que j'aille travailler à CKRNMF parce que la radio communautaire, première radio communautaire francophone en Amérique, CKRNMF est en mauvais état, elle sert d'antichambre à Radio-Canada et puis les gens sont tannés de servir d'antichambre à Radio-Canada, puis il faut qu'ils déménagent de l'Université Laval. C'est une idée de fou, CKRN, mais je dis oui. Je vous raconte ce petit bout-là de CKRN que j'ai dirigé pendant 3 ans. Parce que CKRL, un des membres fondateurs s'appelle Jean-Louis Dubé. Ce titre, Jean-Louis Dubé, a été un peu auparavant au cabinet du ministre des Communications du Québec dans le grand débat qui a opposé le Québec et le fédéral sur le contrôle des moyens de communication, hein, télévision, etc. Litige que le Canada a gagné. Fait partie des catastrophes que nous subissons. Et qui est le ministre des Communications? C'est Jean-Paul Lagnier. Hein? Alors, pour une raison qui me... Ben, c'est ça, c'est que nos vies comportent des hasards, et ces hasards-là, on peut finir par les... C'est comme une conjoncture qu'on peut modifier. Hein? C'est comme... Alors, ce Dubé, quelques années plus tard... qui a conservé ses relations dans les cabinets politiques, va jouer un rôle essentiel dans la réalisation de Méduse. Avant qu'un projet comme Méduse puisse se réaliser, il faut que le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec dise oui. Puis le Conseil du Trésor, ils ont une couche d'analystes qui ne sont pas rigolos, qui ne s'intéressent pas aux arts, qui... c'est des analystes au sens le plus strict du monde. Et comme Dubé avait ses contacts avec ces gens-là, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé avec des analystes du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec dans des appartements du Vieux-Québec. Mais heureusement qu'on avait ces contacts-là, parce que probablement le projet était tellement inattendu et inanalysable du point de vue gouvernemental que ça n'aurait jamais fonctionné. Donc voilà, un de ces fameux hasards qui font des drôles de choses, mais qui d'autre apparaissent à CKRNMF. Et CKRNMF, c'est une radio qui fonctionne uniquement sur le bénévolat, il y a un ou deux permanents max. Puis tout le reste, ben, c'est des jeunes qui veulent faire de la radio puis qui viennent. Puis on dit oui ou non. Puis généralement, on dit oui parce qu'on n'en a jamais ça. Alors apparaît Fabrice Montal. Fabrice Montal, ça va être un des membres de Priorité TV numéro 2. Il y a eu dans le fond deux Priorité TV. Apparaît Georges Azaria. Fabrice Montal, après l'époque Priorité TV, crée un titre. Hein, qui va diriger pendant je ne sais pas combien de temps. Et maintenant, il est à la Cinémathèque québécoise. Apparaît Georges Azaria, qui est un beau dingue qui produit des instruments sonores, fabrique des patentes un peu bizarres. Et alors, Georges Azaria va faire partie de Brité TV numéro 2. Et apparaît Charles-Éric Savard, qui va devenir le trésorier malheureux de Méduse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le coordonnateur de Spirafilm. Et tout ce monde-là se connaît pas. Hein? Alors, l'espèce d'agglomération, l'espèce de complémentarité, d'interaction, se crée sur le terrain au fil des jours puis au fil des mois et donne un collectif important qui se met à produire dans toutes sortes de directions et qui va mener en partie jusqu'à Méduse, mais qui va surtout mener à la nécessité pour le ministère de la Culture et des Communications du Québec de m'appeler pour me demander de définir ce qu'est le multidisciplinaire. Ce qui est trop de faire. Et là aussi, il y a une petite anecdote qui pourrait peut-être vous faire sourire un peu. Le type qui m'appelle va devenir le mari de Christiane Jobin, qui met sur pied à ce moment-là le Centre Vue. Alors il travaille au ministère et puis reçoit le mandat de résoudre cette question-là. Il y a des disciplines qu'on n'est pas capable de cadrer. Et la définition à laquelle on arrive à cette époque-là est à peu près, encore une fois, je vous la résume vite faite, est à peu près, ce sont des œuvres qui utilisent une ou plusieurs des disciplines existantes, mais dont le résultat n'est pas définissable par aucune de ces disciplines. Point. Et à côté, on sent le besoin de définir le multimédia. Pourquoi? Parce que dans la tête du ministère à cette époque-là, le multidisciplinaire suppose nécessairement l'utilisation des technologies audiovisuelles. On dit non, 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 non. Oui, ça se peut. Mais ça se peut aussi que pour. C'est pas inscrit dans les gènes. Ceux qui utilisent principalement ou exclusivement les technologies audiovisuelles de l'époque, il faut toujours se resituer, ça a tellement changé. On dit eux autres, ils font du multimédia. Puis ce qu'ils font, c'est provoquer des effets sensoriels sur les spectateurs. Et puis, le ministère ajoute grosso modo les deux définitions, puis ça apparaît à partir de là dans les programmes du ministère. C'est assez intéressant. D'abord, le multimédia, ça ne veut plus dire ça partout. C'est complètement dépassé, ça fait quand même pas deux siècles. Mais ça n'a plus rien à voir. Hein. Maintenant, on parle d'intégration multimédia, puis on parle de technologie numérique, et puis multimédia, complètement autre chose. Et le multidisciplinaire, ou l'interdisciplinaire, ou l'indisciplinaire, Je pense que ça veut encore dire ça en partie, mais c'est peut-être pas inclusif de tout ce qui se fait sous le chapeau de l'interdisciplinaire. Il faudrait se demander si le chapeau déborde. Peut-être pas, mais il faudrait voir un peu. Est-ce que c'est important, ces définitions-là? À mon avis, pas trop. C'est un peu secondaire. Mais il fallait l'avoir pour aller chercher un peu de fric, pour développer Obscur et tout le reste. En même temps, on met sur pied à Obscur des services techniques, parce que là, il y a des problématiques pour la production. C'est des services techniques très légers, on n'est pas allé très loin là-dedans, ça coûtait même trop cher, mais ça permet quand même de faire un certain nombre de choses. Dans le département interdisciplinaire dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un type, il y a plus qu'un type, mais il y en a un, qui est là à temps partiel comme prof en sociologie, qui s'appelle Paul Morin. Paul Morin, c'est un sociologue, il fait partie de la lignée de Gaétan, là, sociologue fatigant avec la sociologie. Mais c'est un type très convaincu, un militant, et il est très préoccupé par toute la problématique de la santé mentale, qui à l'époque, vous vous en souviendrez, là, c'est la fameuse époque de la désinstitutionnalisation. Donc, il crée le département en ferme, alors Paul Morin perd sa job, il crée une structure qui s'appelle Autopsie. Autopsie, c'est un groupe de défense des ex-psychiatrisés, défense des droits surtout, qui a fait des cellules, qui a fait des petits. Autopsie est proche d'Obscur, évidemment, puisque vous l'avez vu tantôt, on se connaît tous, on est dans la même mouvance, on sort du même coin. Et Paul et moi, on s'assoit, puis on fait, on devrait peut-être aussi voir comment on peut rapprocher la problématique de la santé mentale et la problématique de la vie artistique. Je ne fais pas un cours là-dessus. Mais on se positionne et on crée Folie Culture. Folie Culture va être davantage connue au début par ses festivals. Il y a eu, je pense, deux ou trois festivals importants en collaboration avec CKL. Et donc, Folie Culture, ben, vous voyez, ils sont autour de la table, puis ça a continué d'exister. Mais ça a été, là aussi, une fabuleuse bagarre, parce que Folie Culture, on a mis un temps fou à être reconnu dans le secteur des arts, parvenait à se faire financer un peu dans le secteur de la santé. Folie Culture, c'est un organisme communautaire qui intervient pas sur le terrain à l'époque. Autopsie intervient carrément sur le terrain de la santé. Folie Culture a tendance à intervenir beaucoup sur le terrain de la santé par les arts. Et Autopsie est un organisme communautaire autonome. Les radiodiffuseurs communautaires sont des organismes communautaires autonomes. J'ai toujours été extrêmement préoccupé par la sauvegarde de nos liens avec nos semblables. Pour moi, un centre d'artistes autogéré, c'est comme une coop. C'est comme un collectif autogénéré qui mène ses productions puis qui va de l'avant comme il l'entend. C'est comme un organisme communautaire autonome. La bagarre qu'on mène dans le secteur des arts, eux mènent dans les autres secteurs sociaux pour essayer de sauvegarder leur capacité de produire puis de diffuser ce qu'ils sont. Alors, vous allez me voir venir. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on réfléchisse davantage et qu'on pense le plus possible à comment établir nos alliances. Est-ce qu'on doit s'allier à tout ce qui est monde des arts? Est-ce que c'est la meilleure alliance qu'on puisse imaginer? Est-ce que nos structures ou nos façons de faire prédominent sur les pratiques qu'on fait? Si nos façons de faire prédominent sur les pratiques qu'on fait, est-ce qu'on ne doit pas s'affilier avec ceux qui sont le plus proche de nos façons de faire et pas avec ceux qui sont le plus proche de chacune des productions qu'on crée? Est-ce qu'il faut s'affilier avec ceux qui sont les plus lourds comme lobby actuel, ou est-ce qu'on ne doit pas justement nuire au succès de ces lobbies-là si on veut faire notre place? Et dans les lobbies lourds, dans les structures actuelles du domaine des arts, ben, j'ai mentionné le CQT, on peut mentionner le RCDAQ, que j'ai fondé. Pas seul, et dont l'évolution est gênante, à mon avis. Il y a des questions comme celle-là qui mériteraient d'être réfléchies, et je pense que ça fait partie de ce qui est sur notre table. Je reviens à ce que je vous racontais au début. J'ai dit, je veux qu'on regarde un peu comment nous existons. Hein? Alors, sur cette base-là, ce que je voulais dire en mentionnant les gens donc, que j'ai mentionnés, puis la courte histoire que j'ai essayé de faire, ce que je voulais dire, puis montrer, c'est, dans le fond, on est là à cause du travail collectif qu'on a fait, dans mon cas, en tout cas, puis je pense dans le cas de plusieurs d'entre vous, à cause du travail collectif qu'on a fait par passion pour les œuvres qu'on veut produire. C'est la base. Je vois pas d'autre base que ça. En tout cas, dans mon cas, il n'y a pas d'autre base que celle-là. Et s'il y a quelque chose à affirmer et à préserver avant toute autre chose, c'est ça. C'est le fait que, sur la base même de nos affinités, sur la base de nos complémentarités, on crée des noyaux de création qui se mettent tout d'un coup à produire, qui se mettent à profuser, qui se mettent à diffuser, qui se mettent à être vus ailleurs, qui deviennent comme des espèces de machins qu'on a envie de cloner, et puis tant mieux. C'est tout ça avec difficulté, là, mais je dis, comment ça se fait que c'est pas ça qu'on défend quand on veut être soutenu par les conseils des hommes? C'est le mandat qu'il faut vendre. C'est pas on est capable de faire des rapports, nos états financiers sont bien, bel et bien, pas sûr que ces aspects-là ont une relative importance, il ne faut pas jouer aux imbéciles non plus, mais c'est pas la bureaucratie, c'est pas la conformité à des modèles de rendement de compte, c'est pas l'obéissance à des imbécilités comme on va vous verser votre subvention en trois tranches parce que peut-être vous allez mal la dépenser. C'est pas ce genre de truc-là avec lequel on doit s'installer puis vivre. Il faut vendre ce qu'on est comme collectif avec le mandat qu'on s'est donné. C'est ça qu'il faut vendre et c'est ça qu'il faut qu'il achète. Alors, comment y arriver demain matin? C'est sûr que c'est pas demain matin, mais moi je pense que c'est ça qui est la base. Comment nous devenons? C'était ma deuxième question. Il est certain qu'il faut structurer nos affaires. Hein? Moi, je suis encore aujourd'hui convaincu que les centres d'artistes sont un très bon modèle. Je suis sûr que c'est plus le seul modèle. Beaucoup de choses ont changé. Mais les centres d'artistes sont un très bon modèle s'ils reviennent à leur base. Les centres d'artistes, avant de devenir des institutions relatives, il faudrait quand même pas le Musée national du Québec, là, le centre-vue, quand même, il ne faut pas exagérer, mais les centres d'artistes se sont effectivement institutionnalisés. Et rappelons-nous que quand on a créé le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, on n'a jamais mis dedans le mot art visuel. C'est stupide qu'on se retrouve dans une situation où on est en train, par la force des choses, nous-mêmes comme artistes et collectifs d'artistes, de se segmenter. Hein? J'ai assisté à une réunion dernièrement du CECAM où la question était comment on ajuste les tarifs pour les différentes formes de prestations dans le domaine des arts médiatiques et numériques au Québec. Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce que vous avez discuté avec un PAC ou avec le RAV? Et non. On ne peut pas refaire le monde. Il faut quand même gagner en historique, en expérience, en habileté. Et là, on est en train de commencer chacun dans notre petit coin à vouloir refaire ce qui s'appelle le cachet, refaire la définition des arts numériques, médiatiques, etc., refaire la définition des arts interdisciplinaires, refaire. Il y a des acquis quand même au Québec, là. Le poids du RCAQ en nombre, c'est pas rien, puis c'est influent. Alors, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de se réapproprier nous-mêmes nos propres structures? C'est à nous, cette affaire-là. Le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, c'est pas contrôlé par on sait pas, c'est peut-être dirigé depuis trop longtemps par le même, mais c'est pas contrôlé par une sorte d'instances plénipotentiaires qui nous échappent. Alors, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de mettre nos poings sur la table et dire oh, on peut-tu revenir à. Hein, on peut-tu arrêter cette niaiserie-là? Ça se pourrait-tu autour de la table, dans les grands. On changera de nom s'il faut. Mais dans les grands congrès de l'un ou l'autre des associations représentatives, on revienne à la structure de base, à la réalité de base, qui est nous avons formé des collectifs pour faire un art qu'on autogère comme on l'entend, à partir de ce qu'on a envie de produire. Puis que votre gang, vous vouliez le faire en estampe, on s'en sacre si c'est intéressant. Si c'est intéressant, venez vous asseoir avec nous. Vous autres, vous voulez le faire en vidéo traditionnelle, c'est drôle de dire vidéo traditionnelle, ben on s'en sacre, parce que si ce que vous faites dans la vidéo est intéressant, et vous avez... Comment ça fait qu'on n'est plus capable de dire « Hey! » C'est une farce. C'est carrément... Moi, les deux bras m'entendent à trois fois que je regarde ça. Le budget... parce que je vous avais dit que je vous dirais deux, trois choses. Le budget, pour conclure, eh bien, le budget du Conseil des arts du Canada en intérieur, c'est 2% du budget. Un peu moins que 2%. le calque, Jean, c'est combien?
C'est 1%, c'est 1, je sais pas. C'est 1%.
Ils vont nous le dire. Ils vont le trouver, ils vont nous le dire. Mais avec des grenades comme ça, là, on ne changera pas facilement le monde. On peut en faire un bout, mais ça va être difficile. Ça va prendre du temps. Hein. Alors, il faudrait peut-être qu'il y ait comme des déplacements dans l'enveloppe, hein, puis que le fric sorte de là où il dort depuis quelque temps et qu'il s'en vienne du côté des arts vivants. Ça serait peut-être pas si bête. Alors ça, il faut aussi regarder. Il faut aussi regarder comment c'est possible ou comment on pourrait y arriver, parce que c'est pas si simple que ça. Je voudrais finir en disant que tantôt, j'ai écorché le Conseil québécois du théâtre. J'aime toujours écorcher le Conseil québécois du théâtre. C'est pas grave. Mais parce que je trouve que c'est une fédération qui fonctionne très bien sur la base de certaines formes de théâtre. C'est une fédération qui est très efficace. C'est une fédération, n'oubliez pas ça, hein, le Conseil québécois du théâtre. Il y a des associations à l'intérieur du Conseil. C'est pas juste le Conseil, puis c'est pas juste une forme théâtrale. Mais eux, pour réussir ce qu'ils font, ils le font en rabattant les différences. Ça finit par devenir le théâtre. Et puis là, on oublie qu'il y a du théâtre institutionnel, il y a du théâtre... il y a différentes formes de théâtre. Moi, je pense qu'une des voies qu'on pourrait regarder dans l'avenir, c'est comment on pourrait se refédérer, parce que je pense que c'est important de garder nos différences, mais se refédérer en faisant exactement le contraire du Conseil québécois du théâtre, en mettant en avant, avec le plus de fierté possible et de force possible, les différences qui nous réunissent. Et c'est faisable. C'est pas facile.
Je vais présenter un peu les filles électriques, notre parcours, parce que j'ai trouvé ça intéressant ce que Gilles a fait hier. Ça permet aussi de comprendre nos différences. Puis je vais terminer avec un peu ce que je pense les enjeux de nos discussions. Donc, je dirais comme Jacob Grant, I don't fit. Ça fait que ça a été l'histoire de ma vie. Je fitais nulle part. Alors, j'ai fini par trouver que c'était une qualité. Pendant plusieurs années, c'était un défaut pour moi. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était une qualité, puis j'ai décidé de le revendiquer. Donc, les filles électriques ont fait des spectacles, des performances, des petits films, on a fait des livres, des disques, on a un festival, on a une compagnie de création-production. On n'est pas beaucoup, les filles électriques, il y a moi, et je n'y ai pas, là, et une autre personne, souvent à temps partiel. Puis, suis des pigistes au moment du festival. Donc, on est très, très interdisciplinaire, multidisciplinaire, les domaines danse, assez concret. Je me définis beaucoup dans cette idée-là de travailler surtout le processus. Alors, dans nos productions, souvent, justement, il n'y a pas de hiérarchie. Puis ça a été un peu le départ de mon travail, parce que j'ai eu de la littérature. J'étais écrivain au départ. Écrivain parce qu'en fait, je trouvais que la vie ne pouvait pas accueillir ce que j'étais. J'étais trop intense. À un moment donné, je me suis dit, je vais m'écrire, parce que c'est impossible pour moi de vivre comme je suis. Mais après quelques années, je me suis dit non, je ne vais pas rester sous le banc toute ma vie, je vais vivre comme j'écris. Du coup, j'ai beaucoup moins écrit. Puis là, ben, j'ai fait des spectacles, des performances, tout ça. Donc, ça a été mon processus. Donc, en partant de la littérature, ben, je me suis mis à faire des spectacles. J'ai été la directrice artistique du Festival de littérature. À un moment donné, j'ai tout fait là-dedans. Et j'ai fondé Les Filles électriques pour justement accueillir les inclassables comme moi. Et on travaillait beaucoup à ce moment-là la poésie performée, ce qu'on appelait le spoken word. On a été sûrement un grand porte-parole du spoken word avec le festival Voix d'Amérique. Mais déjà, dans le premier show qu'on a fait, qui s'appelait le Band de poètes, ben, les poètes faisaient de la musique, puis les musiciens faisaient des textes. Puis si on n'avait pas de projection, parce qu'on n'avait juste pas les moyens. Hein. Mais déjà, on était dans cette idée-là de faire éclater la littérature et que toujours travailler, c'est travailler la non-hiérarchie, c'est-à-dire que c'est pas le texte qui est nécessairement en avant, puis tout ne va pas s'articuler autour du texte. C'est toujours ça qui m'a intéressée, c'est que chaque chose reprenne sa place, puis que si, mettons, l'écrivain, même quand je montais des choses à l'écrivain, si l'écrivain vient dire son texte, ben livre-le, tu sais, puis vas-y, parce que là, tu es sur une scène, tu n'es pas dans ton salon, tu n'es pas dans ta chambre à écrire. Donc, ça a toujours été ça, mon travail, de permettre d'être très permissive, en fait. Même avec les écrivains, j'avais envie qu'ils... Parce que pour moi, l'écrivain, c'est un artiste aussi. C'est pas juste un intellectuel. Donc, que l'écrivain puisse vivre son côté artiste aussi. Alors, on a parlé de ça tantôt dans notre atelier. Je trouvais que ça nous définissait bien aussi, même dans notre rapport au public, nous, de l'inter ou de la discipline. C'est le côté permissif. Permissif pour les artistes de changer de façon de faire, mais permissif pour le public aussi de changer de posture, de ne plus être juste assis devant nous, d'être dans une autre salle, de voir les choses autrement. Donc, on se définit aussi, les filles électriques, par, je dirais, une réappropriation artisanale des nouvelles technologies. Parce qu'on n'a pas les moyens, donc on travaille beaucoup avec les rétroprojecteurs et on peut faire beaucoup de choses avec les rétroprojecteurs. Mais même quand il y a de la technologie, pour moi, c'est important qu'on ne voit pas la technologie avant. T'sais, j'ai vraiment envie que, justement que ça reprenne sa place, que ça soit un truc parmi d'autres. C'est un peu notre façon de travailler. Et mon maître, depuis plusieurs années, c'est vraiment Georges Méliès, qui était un inventeur et qui faisait tout lui-même. Costume, il jouait dans ses films, il faisait des animaux. Et l'autre côté, c'est Jack Smith, je ne sais pas si vous connaissez, le performeur new-yorkais, qui était aussi quelqu'un qui faisait tous des films, qui faisait des performances dans son appartement, qui durait 6 heures. En tout cas, c'est super intéressant, son travail. Donc, c'est un peu ça qui nous guide aux filles électriques. Autre caractéristique, c'est qu'on fait un festival bilingue. On travaille beaucoup avec des anglophones et des francophones. Donc, c'est toute une autre façon de travailler. Il faut connaître les deux communautés. Il faut tout faire traduire nos trucs. Beaucoup d'argent pour ça. Donc, ça nous amène à travailler autrement, ça c'est sûr. Donc, on est dans une mouvance Montréal, multidisciplinaire, multilingue, tout ça. Je dirais que l'autre caractéristique, c'est qu'on travaille le poétique. Et pas juste la poésie, parce qu'on nous a beaucoup associé à la poésie parce qu'on vient de la littérature, mais on travaille pas juste la poésie en texte, mais la poésie dans toutes sortes de dimensions. Puis on travaille beaucoup aussi l'émotion, la connexion avec le public, l'engagement de l'artiste dans sa démarche, mais aussi par rapport au public. Ce qui ne veut pas dire faire plaisir au public, pas du tout, mais ce qui veut dire avoir envie de communiquer quelque chose. Donc, on n'est pas beaucoup dans la mouvance qui est plus des années 60, là, c'est quand même, c'est un peu le statement de tiens-toi, public, je te le crise dans la face. Prends-le. On n'est pas beaucoup dans cette dynamique-là, parce que souvent, le public, de toute façon, il y a des artistes, du monde comme nous, là, qu'on est plus dans l'idée de complicité, d'avoir envie d'une connexion. Donc, on a beaucoup de cabarets, on a beaucoup de shows queer. C'est assez festif ce qu'on fait. Donc, on vient du spoken word, puis de la poésie performée, puis là, on s'est inscrit en interdisciplinarité. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un bon exemple de la diversité de nos pratiques, parce que autant on dit qu'il faut qu'il y ait du monde qui vienne en inter, bien, nous, il a fallu qu'on se batte pour être en inter, c'est assez flayé. Donc, au Conseil des arts du Canada, on était en spoken word, littérature orale, puis ça faisait plusieurs années qu'on sentait qu'on ne fitait pas là. Mais il a fallu vraiment se battre pour qu'on nous dise oui, vous pouvez appliquer en inter, et on venait avec pas d'emploi parce qu'il n'y avait pas de fonctionnement. Donc, on a perdu toute notre historique, on repartait à zéro pour venir en inter. Au CAC, ça a été la même chose, on était en littérature, puis on a dit, être là, on voulait en multi, mais là, ils nous disaient, ben là, le programme multi, on va le fermer, il fallait vraiment se battre, comme on le dit, pour arriver dans notre magnifique discipline qui ne veut pas se définir. Mais je suis quand même heureuse d'être là parce que je me sens plus moi-même, on peut faire plus ce qu'on veut. Donc, l'autre problématique qu'on a, qu'on partage avec Recto Verso, le monde multi, c'est qu'on est une compagnie de création, production, les filles et un festival. Sauf qu'on fait ça avec la même enveloppe budgétaire. Alors, mettons au CAC, on a 40 000, on a baissé à 38 000, on en sépare entre les deux. Au CAC, on avait 35 000 pour les deux. Là, on a réussi à séparer les filles électriques, compagnie de création de production, le festival. Donc là, maintenant, les filles électriques, on a 17 500, le festival, on est monté à 20 000. Au Conseil des arts de Montréal, on avait 25 000 pour les deux, on a séparé les deux, là on est monté à 20 000 pour le festival et 8 000 pour les filles électriques. Fait que c'est pour vous dire qu'on fait ça toujours avec la même enveloppe, les deux mandats. Et c'est une problématique difficile parce qu'un festival, c'est comme un monstre affamé. Ça n'a jamais assez, tu pourrais. Puis on veut, il en veut, il en veut. Donc ça gruge toujours les ressources des filles électriques de notre possibilité de créer, de faire des créations. Et c'est pour ça qu'on a fait un tournant, là, pour ceux qui nous connaissaient, on était Voix d'Amérique pendant 10 ans. Puis là, on a fait un tournant, on a fait une assez grosse remise en question en 2009-2010. Avec notre CA, ça peut être utile, les CA. Moi, ma présidente de CA, c'était Monique Simard à l'époque. On a eu des femmes, Monique Simard. Donc, et on a eu des grosses réunions parce qu'à un moment donné, bon, on avait une mission sociale aussi qui nous prenait beaucoup de temps. J'ai un petit côté Mère Teresa. Et on a fait des gros projets. On a ramassé beaucoup d'argent pour faire des projets avec les femmes en difficulté. On a publié 4 livres. On a travaillé avec les femmes en prison. Mais ça, c'était énorme. Et après toutes ces années de mission sociale, on a décidé de vraiment arrêter ça parce que ça nous éloignait de notre mission artistique. Pas prendre le relais de tous les problèmes sociaux. Donc, on a encore des projets de médiation culturelle, mais beaucoup plus petits. Donc, à un moment donné, on a eu une remise en question parce que comment. En fait, c'est le conseil d'administration qui a dit qu'ils vraiment ont fait un constat qu'eux, ils étaient là pour m'appuyer comme artiste, pour les possibilités que je pouvais amener, puis que, bon, c'est bien le festival, tout ça, mais qu'ils voulaient vraiment qu'on ressente la mission. Puis ça, c'était comme un peu surprenant, parce que quand t'as un côté Mère Teresa, ben justement, t'es tout le temps vouloir faire travailler tout le monde. Donc, et puis je suis allée à New York aussi, grâce au CAC, parce que j'ai eu accès au studio du CAC, 6 mois, incroyable. C'est bien de prendre du recul, parce que quand on est tout le temps dans la famille, on est comme, tout le monde nous prend pour acquis, puis tu sais, c'est rare que tu vas valoriser tes frères et sœurs, tu sais, t'as mieux l'étranger mystérieux que tu connais pas. Ben à New York, moi, j'étais l'étrangère mystérieuse, et là, je présentais nos affaires, puis les gens étaient vraiment super impressionnés puis intéressés par le travail qu'on faisait. Donc tout ça, ça m'a amené à vouloir me libérer de Voix d'Amérique, puis de faire un énorme changement, donc après 10 ans. Puis ça, c'est quelque chose de pas évident de faire faire ça, parce que quand tu as un festival qui fonctionne bien, tout ça, puis tu veux changer, ben, tout le monde est comme, c'est quoi qu'elle a déqué, mais n'est pas contente. Est-ce qu'on avait vraiment fait le tour de ça, le spoken word, et ça ne bougeait pas beaucoup, puis on en a parlé un peu des disciplines qui ne bougent pas beaucoup. Pour moi, toute cette mouvance-là d'oralité qui avait été si effervescente, le milieu du conte, pour moi, ne bougeait plus du tout. Même en spoken word, les artistes que je trouvais les plus intéressants, exemple Alexis O'Hara, qui était là hier, ben, il est devenu interdisciplinaire. Moi-même, je me considérais comme interdisciplinaire. Donc, on a fait ce changement-là, mais on avait beau l'expliquer qu'on n'était pas juste spoken word, les gens ne comprenaient pas. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse un changement de date, changement de mandat, puis changement de nom. Et c'est là qu'on est arrivé avec Phenomena. J'ai amené des programmes, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, qui nous permettaient d'être plus ludiques aussi à tous les niveaux. Parce que, d'ailleurs, le sous-titre de Phenomena, c'est « Événement intrigant et poétique ». Et ça a été très libérateur, en fait. Même si j'ai eu peur de tout perdre, parce que tu sais, quand tu fais un changement comme ça, c'est quand même risqué. Pour moi, c'était très libérateur, puis je suis très heureuse. Et d'ailleurs, on a pu faire un appel de projet, parce que quand on était en spoken word, il n'y a pas tant de monde que ça qui monte des shows de poésie, tout ça. Donc, il fallait que je monte toutes les shows, quasiment. Donc là, on a un appel de projet, ce qui nous a permis de rejoindre aussi toute une nouvelle communauté en travaillant dans cet esprit-là, Méliès, de rejoindre des milieux que je trouve très dynamiques, comme le milieu de la marionnette contemporaine, des gens qui font du théâtre d'ombre, qui sont justement artisanales, qui ont les mains dedans, qui inventent et aussi qui travaillent, qui font des créations, ce que j'appelle high-tech, low-tech, et aussi qui font des choses avec des petits budgets. Puis c'est pas parce que je dis qu'il faut pas qu'on ait de l'argent, pas du tout. Mais à New York, c'est ça qui m'a frappé aussi, c'est qu'il n'y a pas de subvention. Tu peux avoir un truc de la fondation Andy Warhol une fois dans ta vie. Là, mais... Puis, il se faisait beaucoup de choses. Il y avait plein de shows, de monde justement qui se passait du stock, puis tous des jobs ailleurs. Puis, faisait... puis ça, je trouvais ça inspirant. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne va pas faire ce qu'on a à faire. Puis ça correspondait un peu à ce que j'ai dit hier, que j'étais tannée moi-même de m'entendre chialer qu'il n'y a pas d'argent, là, je ne me peux plus de m'entendre. Donc, j'ai décidé de... Et suite aussi à la fameuse inscription quadriannuelle de l'année passée, je pense qu'il y en a plusieurs peut-être qui ont fait la demande dessus. Nous, on en avait deux à faire parce qu'on séparait les filles électriques puis le festival. Puis on avait beaucoup à prouver parce qu'on était nouveau aussi en inter. Ça m'a pris un mois, là, je pense que j'ai mis 100 pages de texte, puis des projections, puis j'ai vraiment mis toute mon âme. Puis quand on a eu les résultats, ça m'a tué. J'étais comme, attends, là, c'est l'évaluation quadriannuelle, puis les filles électriques, on reste à 17 500, puis le festival, on monte à 20 000. J'étais là, anéantie, j'en revenais pas. Puis au CAC, on s'était fait couper de 2 000. Donc j'étais... un peu... puis là, je me suis dit, bon, ben, fuck de la merde, que je mange la merde, je mange. Excusez-moi, mais on parle de parcours. Je me suis dit, moi, je fais mes affaires. Coûte que coûte, je fais mes affaires. Qui m'aime me suit. Je vais collaborer avec du monde. J'y crois à ce que je fais. Je connais plein d'artistes super, puis on y va. Donc, c'est ça qu'on a fait avec le dernier phénomène, parce qu'on avait beaucoup de... La moitié des artistes avaient en bas de 30 ans. Je pense que c'était du nouveau monde, qui font des choses avec beaucoup de moyens. Puis c'était une émission fabuleuse, dont je suis très fière. Puis c'est un peu... J'arrive à un peu les enjeux de ce qui nous réunit. C'est sûr qu'il faut se battre, là, puis vous, les conseils des arts, là, vous n'avez pas fini de nous avoir dans votre soupe. Je pense qu'on mérite mieux que ce qu'on a. Honnêtement, on mérite plus que ça. Donc, il y a des batailles à faire. Je pense qu'on a des devoirs aussi à faire, nous, le milieu, parce que je suis sur une sorte de comité, puis je vois les autres disciplines qui sont organisées, qui peut-être qui n'avaient pas envie de se définir, mais qui se sont définies, puis qui ont obtenu des choses. Fait que je pense que nous, il va peut-être falloir qu'on fasse aussi nos devoirs, mais qu'on soit stratégique et qu'on le fasse à notre manière. On n'a pas besoin de le faire comme les autres, c'est ça. On peut réussir à se définir comme communauté sans le faire nécessairement comme le théâtre, la danse ou ces disciplines-là dont on ne veut pas être. Mais pour moi, la chose vraiment importante en ce moment, c'est de développer les réseaux
les collaborations et la diffusion, de faire tourner nos shows, parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde comme moi dans cette situation-là. Mais d'autres, on a monté des super beaux shows, des vraiment crises de bons shows qu'on a fait pour une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'on a fait ces shows-là avec une petite subvention, bien, vous avez vu nos subventions. Puis c'est ça aussi l'affaire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand tu es au fonctionnement, tu ne peux pas demander de projet. Fait que moi, pour CAC, les filles électriques, on a 17 500, je ne peux pas demander d'autre argent. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'en fais des choses, mais tu sais, je ne peux pas faire des créations, les faire diffuser, puis tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème là, il va falloir... je trouve ça un peu hypocrite, en fait. T'sais, on dit, ben, t'es au fonctionnement, mais t'en as presque pas, mais tu peux pas aller en demander ailleurs. Mais personne ne veut ouvrir le problème. T'sais. C'est comme si tu parles de ça, on dirait que tout le monde en regarde dans sa sacoche. Fait que pour moi, il y a un problème. Si on dit qu'il n'y a pas de nouveaux argents, il y a ci, il y a ça, ben, il faut comme regarder la situation et voir ce qu'on peut faire. En étant imaginatif. Puis on ne peut pas chialer, hein. Donc, pour moi, un des enjeux, c'est vraiment l'auto-organisation anarchiste. Parce que moi, je me dis, là, ça va faire des courriels, ça va faire... Pourquoi on ne peut pas pogner le téléphone et dire, « Dès Kim, j'ai un artiste, c'est hallucinant, toi, tu m'appelles, il a fait un truc, là, puis il faut absolument qu'on se mette ensemble. » Tu sais, pas 3000 courriels, moi, j'en peux plus des courriels, j'en reçois 20 000, tu sais. J'aimerais ça qu'on revienne un peu à... Peut-être cette période-là, quand toi, Gilles, vous avez fondé des affaires, parce que souvent ça a été des rencontres, tu sais, ça a été on veut faire ça, on le fait. Moi, j'aimerais ça beaucoup qu'on revienne à ça, puis qu'on trouve des stratégies nouvelles, puis des collaborations, puis des. Et c'est là où le RAIC, que je remercie d'ailleurs pour avoir eu le courage de faire cette réunion-là, parce que moi, j'étais un petit peu loin du RAIC, là, dans mon cœur, la dernière année. Puis je trouve ça vraiment fantastique qu'on ait cette rencontre-là. Puis je trouve que ça prend du courage quand même pour ouvrir comme ça. Donc hier, il y avait quelqu'un qui disait le RAIC est à l'écoute de ses membres. Moi, je trouve que le RAIC, c'est pas beaucoup occupé des organismes membres du RAIC. Puis quand je vous écoutais parler, je trouve ça fascinant comment on parle différemment, dépendant de si on est un artiste. Comme artiste, là. Moi, c'est vrai que je vais faire mes demandes de subvention dans toutes sortes de disciplines. Les dernières que j'ai faites, c'est en art médiatique. Donc, ben, je me sens même plus à l'aise en même temps. Donc, comme artiste, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être libre, tout ça, mais comme compagnie, tu n'as pas le choix. À un moment donné, il faut que tu te positionnes quelque part. Puis, la discipline, elle existe aussi parce qu'il y a des compagnies, il y a des festivals, il y a des lieux de diffusion. Sinon, au calque, entre autres, bye-bye, ici. Si les compagnies qui sont là ne se battent pas comme des malades pour rester là, garder la discipline vivante, il n'y en aura plus ici. Ça, c'est clair. Donc, dépendant d'où on est, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes préoccupations, puis c'est ça la beauté de la chose. Donc, pour moi, c'est super important qu'on consolide les organismes. Puis les organismes, on se rencontre entre nous. On a eu une première rencontre l'année passée, qui était super, mais on devrait vraiment en avoir deux par année, des rencontres comme ça, où on se brasse les idées, on se brasse les collaborations, on fait des choses, puis comme on fait, nous, on s'est organisé pour faire venir Félix Coubine avec eux. Tu sais, ça n'a pas été compliqué. Tu m'as appelé, tu m'as dit, ça t'intéresse-tu, Félix Coubine? J'ai dit, yes, sir, puis on l'a fait. Quand il est venu, tu sais, ça n'a pas été si compliqué. Là. Donc, pas compliqué, nous autres. fait que pour moi, c'est super important, cet aspect-là et peut-être, les conseils des arts seront interpellés par ces nouvelles façons de faire-là, de nouvelles collaborations, et peut-être vont dire, oui, il faut encourager ces nouveaux réseaux de diffusion-là qui se sont créés, parce qu'on est quand même pénalisé en inter, en outil, il n'y en a pas de réseau de diffusion. Puis souvent, on n'a pas accès à des subventions de tournée parce qu'il n'est pas là, le réseau, même à l'international. Il y a des super belles subventions qui ont même rajouté de l'argent au calque pour les coproductions à l'international. Bien, il y a souvent du monde ici qui ont réussi à avoir des coproductions à l'international. On n'est pas dans les réseaux, on n'a pas... Toi, ben, t'es le plus gros des...
Bien, c'est parce que...
Ben, vous êtes les plus gros aussi, tu sais, c'est sûr, mais je veux dire, moi, je veux en faire des coproductions internationales, mais je n'ai pas le réseau. Donc, ça, je pense qu'on a un travail à faire. Puis, je reviens à l'autre affaire qu'on disait d'exubérance, de manifeste, de j'achève, je suis rendue là-dessus, de présentation. Puis, je trouve que j'y crois vraiment à cette idée-là de se présenter, mais de manière ludique. un peu parce qu'il nous définit la posture, la démarche, le un bon mot tantôt, là, le... Entre tout ça. Simon, il est bon pour en parler.
Oui.
C'est vrai. D'avoir quelque chose qui est ludique, qui est sexy même, tu sais, qui est comme, voilà comment on travaille. Nous, on ne veut pas être dans vos catégories. On travaille comme ça. Justement, on appelle le public à venir avec nous, à venir dans cette façon-là d'inventer. Puis moi, je trouve que ce serait merveilleux si on réussissait à faire de la promo là-dessus. Quelque chose de... Parce que c'est vrai qu'on a un problème avec les médias, là, même juste avec le devoir, il y a les catégories, on n'existe même pas. Là. Puis les médias prennent la moitié de leur temps maintenant à parler d'eux-mêmes, des médias, donc de la place pour nous, là, il n'y en a plus. Hein. Et la dernière chose dont je vais parler, c'est que dans les enjeux qui sont, comme on a, je posais hier la question cruelle, de, le fait que c'est la même enveloppe depuis toujours, avec trois fois plus de joueurs, et toujours, parce qu'on est bien gentil, on ne peut pas dire on va en éliminer parce qu'on est trop gentil, mais en même temps, ceux qui sont là et qui n'ont rien, bien, on fait semblant qu'on ne les voit pas. Là. C'est comme une hypocrisie générale pour moi dans le débat là, sur le financement dans les différents conseils des arts. Puis je sais que c'est compliqué et c'est problématique. Donc, il faut qu'on soit inventif. On n'a pas le choix, c'est la seule solution. Et moi, je fais vraiment un appel au rôle des agents dans les conseils des arts. Ils ont un rôle super important. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils viennent voir, c'est super que vous soyez là, mais il faut qu'ils viennent voir les créations, les festivals, il faut qu'ils soient en connexion avec le milieu, pas qu'ils nous voient comme des amis. Oui, je sais, quand vous êtes là, on chiale, mais il faut qu'ils nous voient comme des alliés. On est des alliés si vous êtes agent dans des conseils des arts, j'imagine, parce que les arts vous intéressent, sinon, mais, ils devraient changer de job, là, mais... Donc, pour moi, il y a vraiment un besoin de resserrer les liens puis de bien comprendre c'est quoi notre discipline puis que les agents viennent au CALM, ils vont beaucoup voir de spectacles, on les salue au CALM, que les gens vont voir plein de spectacles. Notre nouvel agent, il est revenu au festival, là, je trouve ça triste, mais j'espère qu'il va venir au prochain. Au Conseil des arts du Canada, on vous espère, parce que vous n'êtes pas souvent là, Puis à un moment donné, tu sais, c'est difficile de... Je trouve que ça brise la confiance alors qu'on est dans des périodes difficiles. Vous aussi, c'est pas facile pour vous. Vous avez à défendre vos secteurs. Puis Claude, t'es quand même le fondateur d'Interart. On compte sur toi pour défendre notre secteur. Avec la foule et la jeunesse de quand t'as fondé le programme. Donc moi, c'est un peu ça.
Présenté par le Reich.